Il est 4h en temps universel, 6h ici à Paris. Jeanne Bartoli pour le journal. Bonjour Jeanne.
Et bonjour Pierre et bonjour à tous. Dans ce journal, l'appel d'Antonio Guterres à faire taire les armes à Gaza et au Liban, mais aussi à libérer les otages israéliens. Appel alors que Beyrouth est bombardée très intensément cette nuit par l'aviation israélienne. Hier, une déclaration commune de soutien au Liban a été adoptée lors de la fin du sommet de la francophonie, marqué ce sommet par une polémique. Les propos d'Emmanuel Macron qui laisse entendre qu'il est favorable à un embargo sur les armes utilisées à Gaza. Vous entendrez dans ce journal la réponse hier soir de Benjamin Netanyahou. Dans cette édition également, une nouvelle enquête ouverte en Ukraine au sujet d'une exécution présumée de soldats ukrainiens par l'armée russe. L'agence américaine Moody's qui abaisse la note du Sénégal et classe le pays sous surveillance. Et puis on parlera également des élections municipales au Brésil aujourd'hui et de la nouvelle coqueluche des populistes. Il s'appelle Pablo Marçal, influenceur richissime qui plaît aux électeurs de Jair Bolsonaro. Il demande de mettre fin aux violences choquantes et à l'effusion de sang à Gaza et au Liban. Déclaration d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU, qui évoque ces dernières heures dans un communiqué le sort des otages israéliens toujours retenus à Gaza. Il réclame leur libération immédiate et inconditionnelle à la veille demain des commémorations des massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas et alors que l'aviation israélienne continue de bombarder cette nuit le sud de Beyrouth. Place forte du Hezbollah libanais. La situation au Liban, abordée longuement hier lors de la dernière journée du sommet de la francophonie en France, avec à l'issue de ce rendez-vous la publication d'une déclaration commune, Nicolas Roquin.
Alors que l'un des états fondateurs de la francophonie est sous le feu des frappes israéliennes, impossible de faire l'impasse sur la crise au Proche-Orient. Après de longues tractations, les membres de l'OIF se sont entendus sur un texte demandant un cessez-le-feu et condamnant les actions indiscriminées contre les civils. Mais la déclaration ne fait pas mention d'Israël, ce que regrette Ziad Makari, ministre de l'Information et chef de la délégation libanaise.
On aurait voulu qu'il y ait une condamnation très claire des pays francophones, mais malheureusement, on n'a pas pu même nommer Israël dans la déclaration, parce que à chaque fois qu'on nomme Israël, il y a beaucoup de pays qui sont solidaires avec Israël, malheureusement.
Emmanuel Macron a malgré tout défendu l'importance d'avoir trouvé une position commune.
Je ne sous-estimerai pas l'importance de cette déclaration de soutien au Liban et de solidarité au Liban. Elle est importante et c'est une voie claire de l'OIF.
La Roumanie, l'Albanie ou encore le Canada ont émis des réserves à une résolution sur les crises mondiales. Celle-ci mentionne Israël pour rappeler l'obligation de protéger la population palestinienne en zone occupée. Mais preuve des divergences au sein de l'organisation, le président français est allé nettement plus loin.
Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre.
Il a également assuré que les armes françaises n'étaient pas utilisées pour mener des combats à Gaza.
Nicolas Roca et cette déclaration d'Emmanuel Macron qui a vite tourné à la crise diplomatique avec Israël. Écoutez la réponse hier du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur 7 fronts en même temps contre les ennemis de la civilisation. Et alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement à ses côtés. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Honte à eux.
Shame on them. Benjamin Netanyahou et hier dans la soirée, l'Élysée a publié une mise au point assurant que la France était, je cite, l'ami indéfectible d'Israël, déplorant également les mots excessifs de Benjamin Netanyahou. Parmi les pays occidentaux où les manifestations ont été les plus vives contre la guerre à Gaza figure le Royaume-Uni où les manifestations de soutien aux Palestiniens n'ont jamais cessé. À Londres, un nouveau défilé avait lieu hier avec dans toutes les têtes le bilan extrêmement lourd de la guerre dans l'enclave palestinienne. Plus de 41 825 morts, dont une grande majorité de femmes et d'enfants. Correspondance, Sidonie Gaucher.
Comme tous les samedis depuis un an, des milliers de manifestants battent le pavé en soutien à Gaza. Drapeaux, collecte de fonds et des centaines de pancartes qui dénoncent le massacre de dizaines de milliers d'enfants. Sur son compte X, l'ancien premier ministre écossais Oumsa Yousaf, qui était dans le cortège, dénonce le silence et l'inaction du gouvernement. Mélissa, une Libanaise de 23 ans, exprime son désespoir et son incompréhension.
Nous manifestons parce que les attaques s'intensifient et qu'ils bombardent les hôpitaux. Des milliers de personnes ont été déplacées. déplacer vers le sud. La situation est très grave. Ici, à Londres, on manifeste pour faire pression sur le gouvernement britannique qui arme Israël. Parce qu'au fond, Israël ne pourrait pas nous bombarder sans l'argent des États-Unis et du Royaume-Uni. Cela fait un an. C'est absurde de penser que cela fait un an que l'on manifeste toutes les semaines. S'ils voulaient vraiment mettre fin au génocide, ils l'auraient déjà fait. Toutes les organisations internationales qualifient ces attaques de génocide. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils attendent.
Cet après-midi, on attend une nouvelle manifestation qui se déroulera sous importante surveillance policière en mémoire des 1205 personnes tuées l'année dernière lors de l'attaque en Israël le 7 octobre. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Et parmi les victimes de ces massacres du 7 octobre figurent 815 civils. Il y a eu 7500 blessés. Il reste actuellement 101 otages à Gaza. La mort de 35 d'entre eux a été confirmée. RFI sera en édition spéciale demain matin pour analyser cette année de guerre au Proche-Orient. Une guerre qui en a occulté une autre, le conflit en Ukraine qui se poursuit depuis maintenant près de 2 ans. Le procureur général d'Ukraine a annoncé avoir ouvert une nouvelle enquête au sujet d'une exécution présumée de soldats ukrainiens par l'armée russe. Ce n'est pas la première fois que des vidéos circulent et que Kiev alerte sur l'augmentation des crimes de guerre russes contre ces soldats. À Kiev, Emmanuel Chaz.
Les images sont insoutenables. Elles montrent 16 soldats ukrainiens à terre ayant rendu leurs armes dans le secteur de Pokrovsk, dans la région est de Donetsk. Tous sont sommairement exécutés par des soldats russes. Selon Andriy Kostin, le procureur général d'Ukraine, il s'agirait de l'exécution de masse la plus importante commise par les Russes envers les soldats ukrainiens directement sur la ligne de front. Et ces faits correspondent à une volonté militaire et politique de la part de Moscou de torturer et de tuer au mépris des conventions de Genève régulièrement violées sur le territoire ukrainien. Une autre vidéo a fait le tour des médias et réseaux sociaux cette fin de semaine. Elle montre un soldat ukrainien en sous-vêtements dans un champ, lui aussi mis à mort par ses bourreaux. Ce genre d'exécution s'est multiplié cette année, suscitant l'indignation et le choc ici en Ukraine. Selon Kiev, au moins 93 soldats auraient été exécutés dans des conditions similaires. Plus de 50 enquêtes ont déjà été ouvertes pour déterminer les circonstances de ces meurtres et identifier les victimes ainsi que les coupables, afin de pouvoir traduire ces dernières en justice. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
RFI, 6h, passé de 7 minutes. Les bureaux de vote ouvrent dans 3h maintenant en Tunisie. Élection présidentielle. Vote d'ores et déjà entaché d'irrégularités, parmi lesquelles le filtrage des candidatures. Plusieurs candidats n'ont en effet pas été autorisés à se présenter à ce scrutin, alors que la justice les avait pourtant autorisés à le faire. Face au président sortant Kais Saied, seuls 2 candidats. Nous serons en direct de Tunis pour l'ouverture des bureaux de vote. La note du Sénégal, je vous le disais en titre, dégradé par l'agence de notation américaine Moody's. Vendredi soir, l'agence a abaissé la note du pays ouest-africain à B1 en raison d'un déficit budgétaire et d'un endettement nettement plus important que prévu, Claire Fage.
Moody's tire les conséquences de l'audit des finances publiques réalisé par les nouvelles autorités de Dakar. Celles-ci ont révélé la semaine dernière que le déficit budgétaire atteignait 10% du produit intérieur brut, 2 fois plus qu'annoncé par le gouvernement précédent, et que l'endettement frôlait les 80% du PIB, soit 10% de plus qu'annoncé antérieurement. L'agence de notation américaine abaisse donc la note du pays de BA3, la catégorie spéculative, à B1, la catégorie très spéculative. On est encore loin du défaut de paiement caractérisé par la note C, mais cela signifie que le risque associé au Sénégal augmente. Les taux d'intérêt qui lui sont appliqués vont grimper, précise-t-on chez Bering Point. Cela va forcer le gouvernement à être vigilant et à discuter avec le Fonds monétaire international qui a revu à la baisse la croissance du pays de 7,1% à 6%. On attendait une réaction épidermique des marchés, commente de son côté l'économiste sénégalais Meissa Babou. Mais avec les perspectives économiques et l'engagement du pays à corriger tout cela dans le court terme, la confiance devrait revenir, juge-t-il. Les autorités de Dakar ont promis de réduire le déficit en 2025 et de faire revenir l'endettement sous les 70% du PIB.
Claire Fage, un nouveau drame hier dans la Manche. 4 personnes sont décédées dans 2 canots surchargés lors de tentatives de traverser vers l'Angleterre. Il s'agit d'un enfant de 2 ans, de 2 hommes ainsi que d'une femme. L'enfant décédé a été retrouvé inanimé au fond du canot. Il était né en Allemagne d'une mère somalienne. Selon le procureur de Boulogne-sur-Mer, depuis le début de l'année, ce sont 51 personnes qui sont décédés en tentant la traversée. La politique aux États-Unis, à présent un peu moins de 3 mois après y avoir été blessé à l'oreille dans une fusillade, Donald Trump était de retour ces dernières heures à Butler dans l'état de Pennsylvanie. Parmi les personnes invitées lors de ce meeting, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pour lancer un appel à la mobilisation des électeurs. On prend la direction du Brésil à présent, où l'on vote aujourd'hui pour le premier tour des municipales, 2 ans avant les prochaines élections générales, présidentielles et législatives. Ce scrutin local qui a une valeur de test et donne une idée des forces politiques du pays. La révélation de cette campagne, en tout cas, c'est l'ascension surprise d'un populiste, Pablo Marçal, un coach et influenceur richissime qui se présente à la mairie de Sao Paulo et qui séduit les électeurs de l'ancien président Jair Bolsonaro. Sur son profil, écoutez Armel Enders, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8.
Le phénomène Marçal est très intéressant parce que c'est une nouvelle. On croyait avoir un peu tout vu des candidats d'extrême droite transgressifs. Et là, on a encore franchi un palier supplémentaire avec un candidat qui a quand même été condamné pour escroquerie, enfin qui a un casier judiciaire. Ce que Marçal a de plus que Bolsonaro, c'est qu'il touche des catégories que Bolsonaro avait beaucoup plus de mal à toucher, et notamment un électorat qui était plutôt celui du PT, celui des périphéries, celui des noirs, aussi des femmes, c'est à la fois une métamorphose qui montre la résistance du bolsonarisme et l'électorat bolsonariste d'origine si se retrouve dans ce personnage.
Des propos recueillis par Arim Lipold. Enfin, face à la crise climatique, nos leaders politiques se concentrent bien souvent sur les changements systémiques nécessaires. Ils agissent du haut vers le bas pour transformer nos économies. Mais dans leur vie quotidienne, qu'en est-il ? Montrent-ils l'exemple ? Mangent-ils moins de viande ? Prennent-ils moins l'avion ? Pour 2 études scientifiques britanniques récentes, le changement de comportement des dirigeants politiques et des célébrités est un chaînon manquant crucial pour la véritable transition écologique de nos sociétés. Lucille Gimbert.
Pour le moment, nous sommes dans une impasse. Les politiciens craignent un retour de bâton s'ils demandent aux populations de modifier leur comportement, et les citoyens sont réticents à changer leurs habitudes tant que leurs dirigeants ne le font pas eux-mêmes. On pourrait se regarder longtemps comme ça, en chien de faïence. Pourtant, les scientifiques sont formels. Une bonne partie de l'effort à venir pour réduire nos émissions de carbone responsables du réchauffement mondial va passer par une transformation de nos modes de vie, en particulier en Occident. Manger moins de viande, prendre moins l'avion, réduire la voiture thermique. Et si les leaders politiques et les célébrités mettaient le pied à l'étrier et le faisaient savoir, les gens, comme vous et moi, nous serions plus disposés à enclencher nos propres changements. C'est ce que montre une étude publiée dans Nature. Une autre, reprise par Science, nous dit-elle que nombre de députés britanniques font déjà des efforts, mais discrètement, trop peur d'être taxés de monsieur ou madame vertu, ou de braquer certains électeurs et secteurs économiques. Pourtant, les scientifiques le démontrent, si les leaders d'opinion le font, ils seront perçus comme plus compétents, plus efficaces et plus attentionnés.
Lucille Gimbert du service environnement d'RFI.
RFI Matin. Jeanne Bartoli.
6h13, merci d'écouter RFI avec nous ce matin. Vous restez à l'écoute, on va parler dans un instant du vote afro-américain dans l'état de Géorgie, dans le sud des États-Unis, à 1 mois maintenant de la présidentielle. Les démocrates tentent de mobiliser un électorat certes historique, mais qui boude parfois les urnes. Reportage à suivre. La dissuasion nucléaire française à 60 ans. Mais qu'est-ce que la dissuasion nucléaire concrètement ? Réponse avec Franck Alexandre. Et puis vos chroniques du dimanche, c'est dans ta nature avec Florent Guignard et Vivre ailleurs avec Corinne Mandjou. Aux États-Unis, la route vers la Maison-Blanche passera par Atlanta. Voilà ce qu'a déclaré Kamala Harris lors de son passage dans l'état de Géorgie il y a 2 semaines pour un meeting au sujet de la défense du droit à l'avortement. La Géorgie, état qui compte le plus d'électeurs afro-américains des États-Unis, un électorat acquis aux démocrates. Mais encore faut-il se déplacer dans les urnes. Beaucoup se sont en effet abstenus aux dernières élections. Or, la victoire sur place en Géorgie risque de se jouer comme en 2020. À seulement quelques milliers de voix près. Alors sur le terrain, de nombreuses associations se mobilisent pour appeler les électeurs à voter. Reportage de David Thompson.
C'est une opération de porte à porte dans un quartier plutôt qu'au sud de la classe moyenne afro-américaine d'Atlanta. Les pelouses sont parfaitement tondues, les maisons toutes alignées à l'identique façon Desperate Housewives. Avec son t-shirt orange de l'organisation We Vote We Win, sur lequel s'inscrit en majuscule le mot « voter », Caleb, étudiant afro-américain, sonne d'abord à la porte de Mel René qui, une comptable de 67 ans, bien décidée à aller voter le 5 novembre pour Kamala Harris, afin, dit-elle, de restaurer le droit à l'avortement quasiment interdit en Géorgie.
Seule une femme peut comprendre ce qu'il se passe dans le corps d'une femme. Il y a très longtemps, j'ai fait une fausse couche. J'étais à la maison et une hémorragie a commencé. Avec les lois d'aujourd'hui, ils ne m'auraient pas soignée. Je serais sans doute morte. Je ne serais plus là aujourd'hui.
Deux femmes sont mortes en Géorgie, faute de soins après des avortements clandestins. Kamala Harris martèle leur nom à chaque meeting. Ces drames, c'est aussi ce qui motive Emma Royston Cole à voter contre Trump. Mais cette avocate afro-américaine retraitée s'inquiète des dizaines de lois votées par les républicains pour dissuader les Noirs d'aller voter. Sa fille vient justement d'en faire l'expérience.
Ma fille vient juste de recevoir une lettre disant que son bureau de vote avait changé. Or, on vote tous dans cette maison et personne d'autre n'a reçu ça. Voilà ce qu'ils font pour que les gens se trompent de bureau de vote, pour qu'ils arrivent trop tard. Autant de petites choses qui visent à nous empêcher de voter.
Mais pour gagner en Géorgie, les démocrates doivent surtout lutter contre l'abstention des hommes noirs. 30% des Afro-Américains n'ont pas voté en 2020. C'est ce que les commentateurs politiques américains appellent le « gender gap ». Exemple avec Tyler Wallace, à 21 ans, cet agent immobilier est en âge de voter pour la première fois cette année, mais il n'est pas sûr de se mobiliser.
Je ne sais pas, je ne m'intéresse pas trop à la politique. J'ai tellement de choses à gérer en ce moment, la vie, la carrière, tout ça.
Il faut dire que Tyler est encore réticent à l'idée même de voter pour une femme.
J'y réfléchirai à deux fois avant de voter pour une femme. Je pourrais le faire, mais il faudrait que je sois sûr qu'elle ne prend pas ses décisions pour changer le pays sur le coup de ses émotions.
Et dans cette présidentielle, chaque voix va compter pour gagner la Géorgie. En 2020, il avait fallu attendre plus d'un mois et trois recomptages pour obtenir les résultats définitifs. Une victoire de Joe Biden sur le fil avec moins de 12 000 voix d'avance que Donald Trump n'a jamais reconnu. David Thompson, Atlanta RFI.
C'était le 8 octobre 1964. L'armée de l'air française assurait la première alerte nucléaire. Dissuasion aéroportée à l'époque avec le couple Mirage 4 et la bombe nucléaire à gravitation. Depuis cette date, la France dissuade tout adversaire qui voudrait s'en prendre à ses intérêts vitaux. Ligne de défense, c'est avec Franck Alexandre.
Depuis la première prise d'alerte sur la base de Mont-de-Marsan, le 8 octobre 1964, les forces aériennes stratégiques sont l'une des clés de voûte de la dissuasion française. Le rôle de l'armée de l'air est certes indissociable et complémentaire de la composante océanique, les sous-marins lanceurs d'engins balistiques, mais aux yeux du général Jean-Patrice Le Saint, qui cet été a quitté ses fonctions de chef d'état-major des forces aériennes stratégiques, la dissuasion aéroportée a des atouts bien spécifiques.
Le premier atout, c'est l'arme. Et l'arme, aujourd'hui, c'est un missile de croisière extrêmement précis. Le deuxième atout de la composante aéroportée, c'est qu'elle est mise en œuvre à partir de bases aériennes, qui sont des infrastructures visibles. Ce qui permet, dans le cadre de la dialectique nucléaire qu'engagerait le président de la République, de bien matérialiser son attention.
Depuis les bases d'Istres, Avord et Saint-Dizier, plus de 2000 aviateurs sont chargés de la mise en œuvre de la dissuasion par les airs. La composante nucléaire qui se voit, selon la formule du président Hollande, car s'il est impossible de rappeler un missile balistique, la réversibilité d'un raid aérien est toujours une option jusqu'à un certain point, général Le Saint.
À partir du moment où le raid est engagé, les équipages poursuivront la mission jusqu'au bout, mais jusqu'à ce point de l'engagement, il est possible de rappeler le raid. Et donc, il est possible de lui faire parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant de l'engager. Et le fait qu'il y ait le raid qui transite, c'est quand même un signal assez fort qui incite à réfléchir.
Un signal fort qui repose sur la crédibilité, c'est le cœur même du concept de dissuasion, insiste Jean-Patrice Le Saint.
Cette crédibilité, elle a trois dimensions. Une première dimension politique qui est incarnée par le président de la République, le détenteur du feu nucléaire. Le deuxième volet, c'est la crédibilité technologique. C'est ce qui permet en fait de garantir que nous sommes en mesure de concevoir des armes, que nous savons leur faire traverser les défenses adverses pour atteindre leur point d'explosion. Le troisième volet, c'est celui de la crédibilité opérationnelle. Et là, il y a un point qui est important, c'est que la crédibilité ne se décrète pas. En revanche, il y a certains paramètres qui permettent d'objectiver la crédibilité. Nous sommes crédibles parce que les équipages des forces aériennes stratégiques conduisent, et souvent de manière ostensible, des manœuvres, les opérations poker, qui, quatre fois par an, engagent dans un scénario extrêmement réaliste une cinquantaine d'avions dans la simulation d'un raid nucléaire.
D'ailleurs, à chaque exercice poker, les satellites espions des grandes puissances braquent leurs antennes vers la France pour observer la manœuvre et mesurer justement la crédibilité de la dissuasion française.
C'était Franck Alexandre, ligne de défense sur RFI. Les places à Sédenta Nature, la chronique de la biodiversité qui nous emmène à la Bourse aux insectes de Juvisy. Elle se tenait le week-end dernier près de Paris où se sont retrouvés vendeurs et collectionneurs du monde entier. Florent Guignard.
Nature morte, des insectes par milliers épinglés dans des cadres en bois, papillons, scarabées ou mille pattes, des insectes en tout genre, de toutes les couleurs et à tous les prix. On déambule dans les allées de la Bourse aux insectes de Juvisy, au sud de Paris, en compagnie de son fondateur Patrick Arnaud, et on s'arrête devant la star, un papillon d'un bleu éclatant.
Ça, c'est les morphos, c'est très recherché, c'est parce que c'est magnifique. Le bleu perdure, c'est pas un pigment. C'est uniquement l'orientation des écailles. Donc, dans les papillons, il y a le bleu, le vert, qui ne sont pas des pigments. C'est un jeu de lumière.
À l'image du morpho originaire d'Amazonie, la plupart des insectes exposés ici viennent des tropiques qui abritent 80% des espèces d'insectes répertoriées.
Les gens peuvent se faire plaisir avec un petit papillon à 3-4 euros. Bon, ben, c'est pas ça qui va contribuer à diminuer la biodiversité. Là, il y a peut-être, je sais pas, 50 000 ou 60 000 insectes là, dans la salle. C'est ce qui disparaît en 2 minutes en coupant la forêt brésilienne.
Patrick Arnaud, chimiste de formation, est devenu entomologiste amateur à la faveur de son service militaire en Guyane.
C'est un peu Sherlock Holmes, l'entomologie. Vous avez une bête sous les yeux. Vous essayez de voir si elle est vraiment nouvelle pour la science ou pas. Je vais avoir 80 espèces que j'ai décrites, moi. On vous dit, ah, vous tuez les insectes. Mais les insectes, malheureusement, pour les étudier, il faut les tuer. On peut pas, comme les oiseaux, uniquement en regardant le champ. Certaines espèces, en fin de compte, on voit la différence très faible par le génie italien, c'est-à-dire le pénis.
Collectionneur au service de la science, Patrick Arnaud a disséqué surtout des bousiers, ces scarabées coprophages.
Ces bêtes sont inféodées à certains types d'excréments, parce que ça dépend sûrement de la nourriture du mammifère ou d'autres, ce qui permet d'extrapoler sur la diversité des mammifères, qui eux-mêmes peuvent extrapoler sur la diversité de la flore.
1 300 000 espèces d'insectes ont été identifiées dans le monde. On estime qu'il en existe 4 fois plus.
Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères.
Ça pèse lourd, les insectes ?
Oh, une mouche, c'est à peine 1/100 de gramme. Mais les insectes, en réalité, pèsent très lourd dans la biodiversité. 80% des espèces d'animaux, c'est des insectes, indispensables dans le cycle de la vie. Ils représentent les 2/3 de la nourriture des oiseaux. 80% des plantes à fleurs aussi en dépendent pour se reproduire. Mais voilà, leur population s'effondre à cause de la déforestation, de l'agriculture et du changement climatique. Et selon une étude très pessimiste, les insectes pourraient tous avoir disparu dans 100 ans, entraînant l'humanité dans leur chute.
Voilà, Humain à l'eau de Stromae, ça c'est pour la musique. Et c'était Florent Guignard.
Vivre ailleurs.
Cela vous est peut-être arrivé lors d'un voyage à l'étranger, être victime de vol ou de perte de vos documents d'identité. Alors que faire dans ce cas? À qui s'adresser? Les explications de Maître Charles-Henri Chenu, dont le cabinet d'avocats est dédié aux Français de l'étranger. Il est au micro de Corinne Mandjou.
Il faut toujours avoir une copie de sa pièce d'identité ou de son passeport. Alors d'abord avoir le réflexe d'une photocopie papier que vous gardez dans un endroit sécurisé chez vous ou à l'hôtel. Mais surtout, prenez une photo de ces documents sur un support électronique ou digital, comme votre téléphone portable ou votre tablette. Mais aussi recommandé, c'est ce que préconise le ministère des Affaires étrangères, de toujours sortir avec vos documents d'identité sur vous, pour ne pas les laisser notamment à l'hôtel contre le vol. Et surtout, ça vous permet de prouver votre identité en cas de contrôle inopiné mener en extérieur et à défaut d'avoir des démêlés avec la police locale qui sont souvent assez pénibles, longs et éprouvants. Alors ce sont des conseils bien sûr de bon sens, mais il convient de les rappeler et de les suivre pour éviter tout déboire à l'étranger.
Et quelles sont les démarches à faire en cas de vol ou de perte de ces documents d'identité à l'étranger ?
L'idée est surtout d'éviter toute utilisation frauduleuse de ces documents perdus ou volés. Alors vous devez immédiatement et vraiment sans délai réaliser certaines démarches. En cas de perte, opérer une déclaration auprès de l'ambassade ou du consulat français le plus proche. En cas de vol, il faut d'abord réaliser une déclaration de vol auprès de la police locale et après vous vous rendez à l'ambassade ou au consulat français le plus proche pour réaliser cette déclaration de vol. Attention, on ne peut déclarer que la perte ou le vol soit de votre passeport, soit de votre carte nationale d'identité, soit de votre permis de conduire et d'aucun autre document. Et à ce moment-là, les autorités françaises vont vous remettre un exemplaire de déclaration de perte ou de vol et ce document remis par l'ambassade ou le consulat vous sera nécessaire pour renouveler vos documents d'identité en France ou à l'étranger ultérieurement.
Alors parfois il arrive qu'on retrouve un document d'identité déclaré perdu ou volé. Que faire dans ce cas-là ?
Alors c'est une très bonne question parce que lorsque vous retrouvez un document d'identité qui a été perdu ou volé, vous ne pouvez plus du tout l'utiliser. Il faut savoir qu'en fait ce document a été rendu invalide informatiquement et il ne permet plus aucun passage aux frontières et il est signalé au niveau international. Donc, une fois que vous retrouvez ce document, vous devez le restituer aux autorités françaises dans les meilleurs délais, mais il ne vous est plus d'aucune utilité.
Et comment gérer son retour en France ou poursuivre son voyage en cas de vol ou de perte de ses documents d'identité ?
Alors, en cas d'urgence, vous vous rendez soit à l'ambassade ou au consulat le plus proche, qui vous délivrera un laissez-passer qui est valable pour le seul retour en France. Donc si vous rentrez en France, c'est le laissez-passer. En revanche, si vous souhaitez continuer votre voyage vers d'autres pays, l'ambassade ou le consulat vous délivrera un passeport temporaire valable 1 an. Le délai de délivrance de ce laissez-passer ou de ce passeport temporaire est assez variable car en fait, les autorités, on comprend bien, doivent procéder à des vérifications concernant votre identité et votre nationalité. Mais dans les faits, il s'agit de quelques jours.
Qu'en est-il des demandes de nouveaux documents d'identité ?
Alors, une fois que vous êtes rentré en France ou que vous habitez à l'étranger, et vous avez perdu donc ces documents ou qu'ils ont été volés, vous demandez des nouveaux passeports ou nouvelles cartes nationales d'identité. Les délais de fabrication de ces nouveaux passeports ou nouvelles cartes d'identité, lorsque vous en faites la demande à l'étranger, ces délais sont entre 2 et 4 semaines. Donc c'est quand même rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours se présenter en personne, physiquement, pour retirer ces nouveaux documents. Et il faut les retirer dans les 3 mois qui suivent leur mise à disposition. Sinon, les documents seront détruits et il faudra faire de nouvelles démarches.
L'avocat Charles-Henri Chenu, interrogé par Corinne Mandjou, c'était Vivre ailleurs. Vous restez avec nous sur RFI. Dans 3 minutes, ce sera le retour de l'info avec le journal de Xavier Besson. Mais avant, une courte pause de musicale avec la rappeuse américaine et haïtienne Canis. On écoute tout de suite son titre « Nos contacts ».
Feel like I'm in sync. Mama, I'm back on top. I got a trop bon, la pele moi non-stop. No contact, moi d'un balil encore. Sans contact, kounya li collé nan com. Say she want it non-stop, non-stop. Ma gala tellement goût, li veli chez moi pop. No contact, moi d'un fali encore. Sans camper, moi dit baby don't stop, don't stop. Mind gala réussi pour un vent, mais pas réussi pop. M'gette fait mes potes, monte vite, m'gette en jouant au lot. Bah, m'gette en changer style, toujours fly, li veut pop. Bah, m'veut faire silence, ma pas distancé, même il veut bombo. Bah, m'show, yeah. Baby, pas fait m'distrait, pour m'blier, pour qui raison, m'en veut quitte honnête. Pour m'blier, pour qui raison, m'en pas m'les tourner. Pas honnête, chérie, bon problème. Top. I got a trop bon, livre les moyens non-stop. No contact, moi d'un balil encore. Sans contact, qu'on y a les collés dans le com. Say she want it non-stop, non-stop. I got a tellement goût, livre les chez moi pop. No contact, moi d'un fêlé encore. Sans camper, moi dit baby don't stop. Douce qu'on pis pop, pis push et pis m'stop. Baby who's your daddy, she say baby dim qui lot. Bloqué dans ma inou, bloqué m'sou pas jou. J'en collé dans comme ou rési, wagi bagi lot. Libes un designer et les steff on top. Bap craqué cocotte, ma tate tot tot. Moi zèple des pêche shot, même pap ka pour on lot. Talem m'collé encore, fais m'bac à faire one pot. I'm back, on top. A gala trop bon, la pelle moi non-stop. No contact, moi d'un balil encore. Sans contact, qu'on y a les collé dans com. Say she want it non-stop. Non-stop, ma gala tellement goût, l'y veli chez moi pop. No contact, moi d'aime faire les encore. Sans camper, moi
dit baby don't stop.
Nos contacts de la rappeuse Canis qui fait partie de la playlist RFI. Vous la retrouvez cette playlist sur le site musique.rfi.fr. Vous restez à l'écoute. Dans quelques secondes, c'est le journal sur la radio du monde.